ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeurs de Caladma Radio, bonjour, vous écoutez Couleur du Monde, votre émission mensuelle préférée. Je suis en compagnie de Jean-François, salut Jean-François.
Salut.
Et d'Emma qui n'a pas droit à la parole puisqu'elle est à la technique. Bonjour Emma malgré tout.
Merci Emma.
Bon, ben, impossible de la faire taire. Alors notre émission de ce mois va évoquer un sujet extrêmement lourd. Puisqu'on a décidé de parler d'Israël et de la Palestine. On a décidé de se poser une question très simple. Comment en est-on arrivé là ? Et pour y répondre, on va faire quelque chose qu'on sait assez bien faire, un déroulé historique, parce que vous allez voir, auditeur de Caladma Radio, qu'il dit beaucoup de choses, ce déroulé historique. Je laisse la parole à Jean-François pour commencer. C'est parti Jean-François.
Oui, alors dans un premier temps, revenons sur ce qu'est la Palestine. La dénomination Palestine apparaît pour la première fois dans la littérature gréco-latine chez Hérodote, donc au 5e siècle avant notre ère. Ce mot vient du peuple des Philistins et par extension, il désigne leur région de peuplement qui correspondait approximativement à l'actuelle bande de Gaza. C'est donc ainsi que la Palestine entre dans la nomenclature géographique grecque, puis dans le langage administratif romain, car c'est une province romaine qui représente l'ensemble du pays qui s'étend de Gaza au lac du Tibériade et du mont Carmel au Jourdain. Le terme disparaît ensuite dans l'usage arabe au Moyen-Orient au profit de celui de Terre Sainte et il réapparaît au XIXe siècle sous l'influence des Occidentaux qui n'ont jamais cessé de l'employer. Alors après les Philistins, les Hébreux ont occupé ce territoire jusqu'en 70 de notre ère, année de la terrible répression de la révolte juive par les Romains. C'est d'ailleurs à cette occasion que le second temple de Jérusalem, construit par Hérode, fut détruit. De nombreux juifs vont alors fuir les persécutions. C'est le temps de ce qu'on appelle la diaspora. Ainsi, on peut vers le milieu du IIe siècle, le judaïsme possédait trois foyers vraiment principaux. La Galilée, qui était le premier refuge des maîtres spirituels survivants, où donc les juifs ne vont pas disparaître. Pour eux, l'accent devait vraiment être mis sur le religieux et non plus sur les revendications politiques. Ensuite, on a un second foyer qui est la Mésopotamie, où de nombreux juifs étaient restés après les grandes déportations déjà du VIe siècle, à l'époque de Babylone. 6e siècle avant Jésus-Christ, ils y jouissaient alors d'une grande autonomie. Et puis, il y avait tous les juifs de la grande diaspora qui s'étend rapidement à tout le monde romain. Les communautés juives étaient surtout nombreuses en Égypte, à Alexandrie, en Asie Mineure, en Grèce et à Rome, mais aussi dans tous les ports et les centres commerciaux de la Méditerranée occidentale et même en Rhénanie. Puis, de plus en plus à l'est, jusqu'en Russie, au gré des persécutions. Alors revenons à la Palestine maintenant. Au 7e siècle, les Arabes en font la conquête. Ils construisent à Jérusalem des lieux saints pour l'islam, particulièrement le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, qui dans la tradition musulmane sont l'endroit depuis lequel Mahomet s'est élevé au ciel. Au 6e siècle, l'Empire ottoman fait la conquête de Jérusalem et du reste de la Palestine. C'est à cette époque que le mur des Lamentations, seul vestige du grand temple détruit par les Romains en 70, devient un sanctuaire juif. D'ailleurs, l'expression de mur des Lamentations est assez tronquée parce que c'est une expression chrétienne qui renvoie aux pleurs des juifs devant la ruine du temple et l'exil. Les juifs, eux, ne disent pas le mur des Lamentations, ils disent le mur occidental.
D'accord.
Et dès le XVIIe siècle, un mouvement messianique religieux préconise le retour de la diaspora juive en Palestine. Ouais. Mais c'est encore vraiment très marginal. Si bien qu'à la fin du XIXe siècle, seuls 24 000 juifs environ habitent en Palestine sur une population de 500 000 habitants. Donc ça fait à peu près 5% de la population, c'est presque rien. D'accord. Ces communautés juives anciennes sont appelées l'ancien Yushof. Elles sont bien intégrées et s'entendent bien au milieu des populations arabes, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Alors c'est à partir de 1180 et jusqu'à la création de 1948 de l'État d'Israël qu'on va parler d'un nouveau peuplement qui s'appelle le nouveau Youchov pour désigner l'arrivée des Juifs qui ont fui les pogroms subis en Europe.
Donc c'est là qu'on va passer à notre première partie,
hein, exactement.
Où on va commencer à développer un peu plus, c'est-à-dire que notre histoire, qu'on va retracer, l'histoire d'Israël, de la Palestine qu'on va retracer, commence à la fin du 19e siècle.
Oui, parce avec, que c'est à cette fin de cette 19e siècle qu'apparaît le sionisme.
Hein, et finalement. Voilà, avec ce fameux mot nouveau, le sionisme, et vas-y, on t'écoute, explique-nous ça.
Bah déjà, première définition du sionisme, c'est une idéologie qui défend le retour des Juifs à Sion, qui est une des collines de la ville de Jérusalem.
D'accord.
Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, le sionisme, c'est synonyme de retour à la Terre Sainte, dont au centre est vraiment Jérusalem.
Okay.
Alors ce projet sioniste, il prend forme par l'action du juif austro-hongrois Theodor Herzl, qui est un journaliste de profession, et il entretient des liens très très forts avec la France. Ainsi, par exemple, les correspondants à Paris du grand quotidien libéral de Vienne, le Neue Freie Presse, la Nouvelle Presse Libre, entre 1891 et 1896. Si vous vous souvenez un peu de vos cours d'histoire, ça correspond finalement à l'affaire Dreyfus qui éclate en 1894. Ouais. Et vraiment, c'est un choc pour lui, car il pensait qu'en France, le pays des droits de l'homme et de l'assimilation, les Juifs seraient à l'abri de l'antisémitisme.
Là, il s'aperçoit que même la France est touchée. Quoi.
Et, ouais, et donc, à la fin de l'année 1995, Herzl estime que les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part en Europe. Mmh. Donc il conçoit le projet d'un État des Juifs. Alors il faut souligner que le sionisme politique et national qui s'institutionnalise ensuite à Bâle en 1897, lors du premier congrès sioniste, n'est pas né dans les communautés juives d'Europe centrale les plus pratiquantes. Non, ouais. Parce que Herzl, il était avec les premiers défenseurs des mouvements des communautés juives urbaines. Il était très laïcisé, très cultivé.
Oui, il était très moderne, en fait. C'était pas du tout un religieux intense, quoi.
Et oui, et puis il défendait, enfin, parallèlement à l'utopie sioniste, les idées socialistes ou socialisantes, hein, ils étaient très développés dans cette communauté juive.
Ouais.
Alors le choix de la localisation du futur État des Juifs apparaît tranché vraiment très rapidement. Hein, très la première phrase d'un texte voté par le premier congrès sioniste le 30 août 1997 à Bâle. Mm-hmm. Je cite « Le sionisme a pour but un foyer national légalement garanti et publiquement reconnu pour le peuple juif en Palestine. »
Ouais, donc c'est très clair dès le début.
Voilà, c'est la Palestine qu'on vise.
C'est en Palestine que ça va se passer.
Eh oui. Alors, dès lors, même si Herzl n'est pas un homme religieux, son projet va quand même acquérir des résonances bibliques et prophétiques.
Bah, inévitablement, oui,
voilà.
Bien sûr.
Il n'en verra pour autant pas la mise en œuvre, puisqu'il va décéder, malheureusement pour lui, en 1904. Mm-hmm. Alors, parallèlement au nationalisme juif sioniste, il y a aussi un nationalisme arabe qui va émerger à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Avant tout, ce nationalisme arabe est dirigé contre le gouvernement ottoman.
Alors, oui, donc il faut vraiment se rappeler que la Palestine est sous contrôle des Turcs, des Ottomans.
Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est un nationalisme qui est assez comparable au mouvement nationaliste d'Europe centrale et orientale qui conteste tout au long du XIXe siècle la légitimité des différents empires à régner.
Oui, c'est le mouvement de libération contre la colonisation, en quelque
sorte. C'est ça, exactement. Alors, du coup, revendiquant pour eux-mêmes le modèle européen de l'État-nation, certains nationalistes arabes réclament ainsi la création d'une grande Syrie dont les frontières demeurent quand même floues. Hein. Là, à ce moment-là, on n'a pas de territoire précis. Alors, il faut souligner que dans les débats de l'époque autour de la question nationale arabe, la dimension religieuse est totalement secondaire.
D'autant, à cette époque, oui, tout à fait.
D'autant plus qu'en plus, il y a de nombreux nationalistes palestiniens qui sont chrétiens, en fait, qui ne sont pas forcément musulmans. Alors certes, jusqu'au début des années 1910, les projets nationaux en gestation ont créé des inquiétudes, des prises de conscience, des échanges de courriers, mais ils n'ont pas déclenché de conflits ou d'affrontements ouverts entre les Juifs et les Arabes de Palestine. Mmh. Avant la Première Guerre mondiale, on peut noter qu'il y a une seule altercation entre Juifs et musulmans au port de Jaffa, lorsqu'il y a des migrants juifs qui arrivent.
On est au niveau des débats, pas des conflits, quoi.
Exactement. D'ailleurs, un événement qui se déroule à Jérusalem, quelques jours avant la révolution des jeunes turcs de 1908, permet de rappeler qu'en ce début du XXe siècle, les lignes de fracture ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ainsi, en août 1908, confiante dans les promesses d'une citoyenneté vraiment interconfessionnelle, pleinement garantie par la nouvelle constitution ottomane, il y a une délégation de juifs qui décide de monter sur l'esplanade des mosquées, qui est donc le lieu saint musulman, hein, qui jusqu'alors leur était interdit.
Ouais.
Ils arborent même une grande bannière aux couleurs de l'étoile de David, et pourtant, ils sont accueillis avec enthousiasme par les imams, qui leur servent des rafraîchissements, friandises, c'est très fort. Hein.
Symboliquement.
Alors après, ils se disent, bah, on enchaîne, on va faire de même au Saint-Sépulcre, autre lieu saint, cette fois chrétien qui était leur interdit. Mais là, par contre, ils se font bastonner et ils se font repousser.
Les chrétiens sont moins tolérants que les musulmans.
Voilà, l'anti-judaïsme est encore extrêmement forte.
Et ouais.
Alors, il va avoir une première bascule en 1917, parce que les Britanniques vont déclencher des tensions en jouant double jeu.
Ouais.
Car depuis la fin de l'année 1914, les Français et les Britanniques sont vraiment présents au Proche-Orient pour combattre militairement l'Empire ottoman, qui est allié de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. En 1917, leurs armées ont pris l'avantage et repoussent les Ottomans toujours plus au nord.
Mmh.
Le Royaume-Uni cherche à s'implanter dans la partie sud du Proche-Orient, qui inclut la Palestine. Alors pour se démarquer, des Français, et gagner des appuis, le secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques, qui s'appelle Lord Balfour, décide d'appuyer officiellement le projet sioniste, c'est la fameuse...
Déclaration Balfour, tout à fait. Ouais.
Qui parle, elle, très prudemment, de foyer national. Mais le flou est complet sur ce que recouvre ce foyer national. Alors, est-ce que c'est un territoire souverain, un territoire en continu, une même nationalité pour les Juifs et les autres habitants de la Palestine? On ne sait pas.
Ouais.
Alors, pour les Anglais, cette promesse est vraiment un moyen de se rapprocher de l'organisation sioniste et d'encourager surtout les Juifs américains à appuyer une entrée en guerre des États-Unis dans le premier conflit mondial.
Ouais, en fait, c'était une motivation complètement tactique pour toute autre chose, en quelque sorte.
Exactement. Mais les Anglais, ils jouent totalement double jeu, hein, puisque pendant la guerre, ils promettent également, en même temps, aux Arabes, l'indépendance et la constitution d'un gros royaume unifié.
L'art de mettre de l'huile sur le feu pour le futur.
Exactement. D'ailleurs, il y a un rôle aussi, il y a le rôle de Laurence d'Arabie là-dedans. Hein,
tout à fait.
Qui a été... il y a un film important.
L'adaptation de David Lean, historique. Ouais.
D'ailleurs, ça va déclencher la première révolte arabe, grande révolte arabe de 1916. Mais c'est une autre histoire. Et maintenant, je te laisse la parole, Patrick, pour nous parler un peu de ce qui se passe dans les années 20 et les années 30.
Ouais, on va prendre la suite de ton explication. Hein. Donc, on est à la fin des années... à la fin des années 1910. Et donc, à partir de 1919, en fait, la Palestine, elle va représenter un enjeu central pour la communauté internationale. Dans le cadre de la rivalité franco-anglaise aussi, il y a aussi cette rivalité entre les deux empires, même s'ils sont au début de la fin, ces empires, il y a une vraie rivalité. Et on a la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui est créée en 1919, qui décide de confier aux Britanniques un mandat international sur la Palestine, donc qui sont chargés de gérer cette province ottomane jusqu'à ce qu'elle arrive à l'indépendance. Mais là, il y a un vrai problème de contradiction dans ce mandat. C'est-à-dire qu'à la fois, les statuts de la Société des Nations mentionne fortement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Sauf qu'il confie aussi aux Britanniques la responsabilité de l'exécution de la déclaration en faveur de l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Donc, il y a une petite contradiction entre les deux. Parce que, à l'époque, il y a quand même 60 000 juifs en Palestine pour 600 000 musulmans et chrétiens. Donc, si on leur demande leur avis, ça va être vite réglé, cette histoire. Non, on ne veut pas de foyer juif en Palestine. Bref, on est là-dedans et commence l'entre-deux-guerres, les années 20 et les années 30. Les nationalistes palestiniens vont considérer, comme tu l'as dit, la déclaration Balfour comme une vraie trahison.
Ouais.
D'accord ? Ils vont commencer à se mobiliser contre ce projet sioniste. Et les premiers affrontements démarrent dès avril 1920. Côté juif, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a un certain Vladimir Jabotinsky qui va avoir un poids très important dans ce qui va se passer. Ce type, c'est le leader de l'ancienne légion juive qui était enrôlée pendant la Première Guerre mondiale sous le drapeau britannique. Et qu'est-ce qu'il fait, Jabotinsky ? Il décide de créer des groupes d'autodéfense armée et de se préparer au combat. Et c'est surtout ses discours et ses actions aussi qui vont changer la donne, puisque pour lui, la force et la violence sont les seuls moyens d'imposer le sionisme en Palestine. Et ça, c'est un changement de discours total par rapport au sionisme humaniste de Herzl, bien sûr. Durant toute la période de l'entre-deux-guerres, vont se succéder trois alias. Les alias, c'est les migrations de juives. Alors, il y en avait eu déjà deux précédemment. Donc, la troisième alias se situe entre 1919 et 1923. Il y aura environ 35 000 migrants juifs. La quatrième alias se situe entre 1924 et 1928. Il y aura environ 80 000 migrants juifs. La cinquième alia se situe entre 1929 et 1939. Et là, il y en a plus parce que c'est la période où en Europe, l'antisémitisme est à fond. Donc, il y a 180 000 migrants juifs qui vont venir en Palestine. Et si on ajoute à ça, durant la Deuxième Guerre mondiale, 80 000 migrants, voilà, on a vraiment une migration quand même au global assez importante. Sauf que durant ces années-là, la situation se tend. Et dans les années 30, entre 36 et 39 notamment, des villageois et des paysans palestiniens vont lancer ce qu'aujourd'hui on considère, enfin du moins les Palestiniens considèrent comme la première intifada, la vraie première intifada. C'est une révolte qui va être soutenue par le grand moufti de Jérusalem. C'est une révolte durant laquelle, tiens, va apparaître le kéfié comme l'emblème du nationalisme palestinien. Bon, elle est déclenchée pour info à l'occasion de la mort d'un leader nationaliste arabe, Izz al-Din al-Qassam, dont certaines brigades du Hamas aujourd'hui portent encore le nom, pour information. Et c'est surtout un soulèvement qui va être durable. Entre 36 et 39, ça dure plusieurs années. En 38, les insurgés contrôlent la vieille ville de Jérusalem. Pour info, le drapeau palestinien qu'ils vont hisser montre un croissant et une croix entremêlée, donc les symboles musulmans et chrétiens entremêlés. Cette intifada, c'est un mouvement interconfessionnel. Pourtant, la pression dans l'autre sens, elle est forte également. Ainsi, en 1937, à Zurich, se tient le 20e congrès sioniste. Et il va garder longtemps ses archives closes. On va avoir du mal à les... Et maintenant, on les connaît, on a accès aux archives, mais on comprend pourquoi elles sont restées closes longtemps. Le principal débat durant ce congrès, ce 20e congrès sioniste en 37 à Zurich, concerne à la fois le partage de la Palestine entre juifs et arabes, proposé par le Lord William Peel, le médiateur anglais, mais aussi un débat sur un thème qu'il fallait garder secret, le transfert des arabes hors des futurs territoires qui seraient octroyés aux juifs.
D'accord.
Effectivement, sujet très chaud. Ouais. Parallèlement, les Britanniques qui sont en charge, je vous rappelle, de ce territoire, sont évidemment pour des raisons culturelles plus proches des sionistes, d'accord, dont beaucoup ont habité en Angleterre. Mais ils se retrouvent quand même face à une situation vraiment presque intenable en Palestine et ils vont lâcher du lest. Lâcher du lest en faisant quoi ? Eh bien, en limitant drastiquement l'immigration juive en Palestine. Et ça, c'est le livre blanc anglais. Sauf que ça se passe en pleine répression des juifs en Europe, donc ça tombe assez mal.
Mauvais timing.
Ouais. Je passe après la Deuxième Guerre mondiale, je cite juste un événement et ensuite on passera à autre chose. Le 22 juillet 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'hôtel King David, qui est le quartier général de la police britannique en Palestine, s'effondre suite à un attentat à la bombe. 91 morts. Qui est à l'origine de cet attentat terroriste ? Eh bien, ce sont des juifs menés par Menachem Begin, qui sera Premier ministre d'Israël dans les années 70. Voilà. Résultat, on est passé en 1914 de 10% de juifs à, en 1945, 30% d'habitants juifs en Palestine. Voilà, on va faire peut-être une première pause musicale. Jean-François, qu'est-ce que t'en penses ?
Allez, c'est bon coup, ça fera du bien.
C'est parti.
ללא מילים, ללא תחושות, אין מנוס ממחשבות, יש פה קרע לא מוסבר, איך שרים כשלב נשבר, אני פה מול החדשות, לא מעכל את הדמעות, אם אנחנו עם נבחר, איך נחרד גורל אכזר. ואין תשובות, ערפל כבד נחת עכשיו. למי פונים? הנשמה פצועה בקרב. שמע ישראל אומרים יחדיו. עוד לא אבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו. שמע ישראל, כולנו עם אחד. תקוותנו להיות חופשי בארצנו, שמע ישראל, כולנו עם אחד. אי אפשר
אפשר לתאר במילים את הזוועות. הנפש פצועה, רק רצינו לרקוד, לא רוצים עוד לראות אמהות שבוכות. מה כבר ביקשנו בשקט לחיות? אין לנו ארץ אחרת, גם אם האדמה פה בוערת. אז די לפילוג, די לשנאה, מסתכלים עלינו, מנצלים את החולשה. זה הזמן לאהוב, להפיץ את התקווה, להרים את הראש, לחייך חזרה, כי כולנו אחים, לא רק במלחמה. עם ישראל זה אותה משפחה, אנחנו ננצח, אין פה ספקות. בהיסטוריה ניצחנו בכל הקרבות, כל הסונים, יאללה ביי. עם ישראל חי.
Du monde.
Vous écoutez Couleurs du monde sur Caladma Radio, notre émission de ce mois que je tiens en compagnie de Jean-François Edema à la technique, est consacrée à une grande question, Israël-Palestine, comment en est-on arrivé là? Vous venez d'écouter One Nation, un morceau qui a été publié, je dirais, en novembre 2023 de mémoire, écrit par Ariel Zoulou. Zouraïef, Jonathan Gertz et Yehuda Kaplan. C'est bien évidemment suite aux attentats terribles du Hamas le 7 octobre 2023. On va passer, Jean-François, si tu le veux bien, à la deuxième partie de notre déroulé historique. Hein. On est après la Deuxième Guerre mondiale et donc on va commencer en 1947-1948. Ouais, hein. Il se passe des choses importantes,
assez essentielles. Puis je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la population de Palestine. Finalement, on estime en 1947, à la fin du mandat britannique, qu'il y a environ 8% du territoire palestinien qui appartient à des membres de la communauté juive à titre individuel ou collectif. Donc c'est peu. Hein,
c'est peu, 8%, gardons aussi ce chiffre en tête.
Ouais. Et c'est justement en 1947 que le Royaume-Uni renonce à son mandat sur la Palestine.
Ouais, ils en ont plein les bottes. Ils n'y arrivent plus.
Voilà. Et puis il y a l'ONU, il y a son assemblée générale qui a été très récemment créée, qui va voter en faveur d'un plan qui prévoit de partager le territoire du mandat en deux États distincts. Je vous rappelle, après la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes de la Shoah, il paraît impossible pour la communauté internationale de laisser les Juifs survivants sans État.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pourtant, le Royaume-Uni continue alors de limiter l'immigration juive en Palestine. Là, par exemple, on peut citer l'exemple célèbre des 4500 Juifs européens embarqués clandestinement à bord de l'Exodus, qui sont renvoyés en Europe par la marine britannique avant leur débarquement en Palestine. Alors, le scandale est vraiment énorme et la communauté internationale prend conscience de la nécessité de trouver un territoire à ses réfugiés. Donc, l'ONU s'y met et commence à proposer des solutions et va mettre en place deux solutions à la question de la Palestine. La proposition majoritaire, c'est une partition de l'ancien territoire mandataire en deux États indépendants, un État juif et un État arabe. Alors, pour tenir compte de l'entremêlement de la population juive et de la population arabe, une minorité au sein du comité défend plutôt la mise en place d'un État binational fédéral.
Ouais.
Voilà, c'est des propositions qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Alors, en novembre 1947, sous la pression des organisations sionistes, c'est l'ONU qui soumet uniquement la première proposition de partition en deux États.
Donc, pas d'État, pas de proposition d'État binational fédéral.
Voilà, tout à fait. Alors, d'une part, le cœur du futur État juif correspond à la plaine côtière qui va de Tel Aviv à Haïfa. C'est là que sont concentrées vraiment les différentes vagues d'immigration juive dont tu as parlé tout à l'heure.
D'accord.
Depuis la fin du XIXe siècle déjà. C'est là aussi où il y a eu les premiers kibbutz, les premières colonies juives. Le futur État juif comprendrait aussi le désert du Negev et la région située à l'est de la Galilée, autour du lac de Tibériade, avec deux points de passage quand même pour relier ces trois zones.
Ah oui, parce qu'elles sont pas, elles communiquent pas naturellement, quoi.
Ouais,
donc il faut des points de passage.
C'est pas évident, Et d'autre part, il propose aussi un État arabe, également constitué de trois zones qui sont à peine en continuité, les unes avec les autres. Seul un point de passage relie la zone côtière autour de Gaza avec le centre de la Palestine. Et un autre point de passage relie cette zone centrale et l'ouest de la Galilée.
Et puis je rappelle, il y a quand même à ce moment-là 70% de personnes qui ne sont pas des juifs. Donc cette zone-là, elle concerne 70% de la population.
Ouais.
Donc c'est un peu étonnant ce que tu viens de décrire.
Et puis tu vas me dire, Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un bon lieu et tous les lieux saints aux alentours, ils se font placer sous le statut de zone sous contrôle international. C'est en fait une survivance de la tutelle
mondiale. Donc ça, c'est la proposition de l'ONU. Ouais. Garder Jérusalem sous son contrôle parce que c'est trop compliqué.
Ouais. Mais alors, à ton avis, les Palestiniens, comment ils vont réagir?
Moyennement, parce que là, ils voient en fait octroyer potentiellement aux Juifs une portion de territoire très supérieure à leur représentativité, en fait.
Parce qu'ils vont avoir que 45% du territoire de la Palestine mandataire, alors que les Arabes palestiniens, ils représentent quand même plus de 70%, comme tu l'as dit, de la population, et ils contrôlent plus de 80% des terres. Donc le refus arabe, il est inévitable, il va se faire.
Ouais.
En revanche, l'organisation sioniste adhère à ce plan, sans la moindre hésitation, bien sûr.
Ah oui, ça les avantage.
Ça leur assure le contrôle de plus de 50% du territoire. Alors qu'ils sont que moins de 30%, comme tu l'as dit. Du coup, le 14 mai 1948, c'est le dernier jour du mandat britannique sur la Palestine. Et dans la journée, les derniers représentants du Royaume-Uni quittent le port de Haïfa. Et les Britanniques, ils vont faire comme dans la partition de l'Inde et du Pakistan. Et ils vont tout partir sans la moindre force présente sur place.
D'accord.
Les casques bleus, ils n'existent pas encore. Donc, ils ne sont pas encore là. Voilà. Ensuite, on a vers 16h David Ben-Gurion, qui est le président de l'agence juive et pas encore le premier ministre israélien. Il va proclamer l'indépendance d'Israël depuis le musée d'art de Tel Aviv. Et en proclamant ainsi de manière vraiment unilatérale l'indépendance d'Israël, Ben-Gurion sait très bien que toutes les nations arabes aux alentours vont entrer en guerre contre le nouvel État.
Oui, parce qu'en gros, il s'assoit sur le plan de l'ONU, qui est pourtant très favorable aux sionistes et à l'immigration juive. Mais lui, il dit non, Israël est créé et on va faire comme j'ai décidé.
Et c'est parti, ouais. Ça ne rate pas. Hein. Le 15 mai 1948, c'est le début de la première guerre israélo-arabe. Alors, contre Israël, on a plusieurs États, surtout arabes, qui s'organisent. On a la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Irak, l'Arabie saoudite et le Yémen du Nord.
Alors, dit comme ça, ça fait très déséquilibré en défaveur d'Israël, on est d'accord.
Mais il se trouve que l'armée israélienne est mieux entraînée, elle est mieux équipée, elle est mieux coordonnée et elle l'emporte face à des armées arabes désorganisées et en réalité assez
extrêmement
faible, mobilisées.
Techniquement et militairement.
Exactement. Alors, en 1949, les accords d'armistice aboutissent à un partage du territoire bien différent de celui proposé par l'ONU 2 ans plus tôt. Mm-hmm. Le territoire de l'État d'Israël se déploie désormais sur 78% du sol de l'ancienne Palestine mandataire. Et comme à l'heure actuelle, les seuls territoires sur lesquels Israël n'est pas souverain, c'est la Cisjordanie, la bande de Gaza, c'est-à-dire seulement 22% de l'ancien mandat britannique. Pour les Palestiniens, cette défaite, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle pour eux la Nakba en arabe.
Ouais.
Et quelques 750 000 Palestiniens sont ainsi condamnés à l'exode en Cisjordanie,
Syrie
et en Égypte.
Il y a quand même 750 000 Palestiniens qui s'en vont, quoi, en quelque sorte, qu'on fout dehors.
Et pour eux, ils réclament le droit au retour. Ils vont réclamer ça constamment. Alors, entre 1949 et 1967, on va faire un gros bond dans le temps quand même, le projet d'un État palestinien est un projet mort-né, donc il ne se passe pas grand-chose. Et on va arriver jusqu'à la guerre des six jours en 1967. Le mois de juin 1967 va vraiment être un moment pivot, parce qu'à la fin du mois de mai 1967, fort de son succès diplomatique 11 ans plus tôt contre les Britanniques, les Français et Israël lors de la nationalisation du canal de Suez, le président égyptien Nasser va déclarer publiquement que l'Égypte est prête à livrer une nouvelle guerre contre Israël. Nasser se présente alors comme vraiment le leader du monde arabe. S'il défend l'existence d'un État pour les Palestiniens, il n'en précise néanmoins pas les frontières. Nasser, il est surtout préoccupé par l'avancée de son projet pan-arabe. Il veut construire un État qui permettrait l'union de tous les Arabes. Et la cause palestinienne lui sert de support pour ce projet.
Ouais, il y aura souvent ça, la cause palestinienne qui va servir un peu de prétexte.
Vraiment souvent instrumentalisé.
Par beaucoup de pays arabes, en fait.
Et pourtant, Nasser, il va être surpris parce que le lundi 5 juin 1967, ce sont les Israéliens qui déclenchent par surprise une attaque préventive contre l'Égypte.
Ouais, ils n'attendent pas d'être attaqués, ils attaquent les premiers.
Et en quelques jours, Israël remporte une victoire spectaculaire contre la coalition de ses voisins arabes. Et entre le lundi 5 et le mercredi 7 juin, l'armée israélienne va conquérir toute la Cisjordanie. Le 7 juin, les troupes israéliennes commandées par le ministre de la Défense Moshe Dayan et par le chef d'état-major Yitzhak Rabin, ils entrent dans Jérusalem-Est. Ensuite, deux jours de guerre contre l'Égypte qui permettent à Israël de conquérir tout le sud du Sinaï. Pour Nasser et pour son peuple, c'est vraiment l'humiliation, d'autant plus que cet immense territoire désertique et montagneux borde le canal de Suez, qui est vraiment le poumon économique de l'Égypte, mm-hmm. et qui est l'emblème du nationalisme égyptien.
Ouais. C'est une humiliation énorme hein, quand même.
Bah, d'ailleurs, le Nasser, il va être en larmes, il va prononcer un discours en larmes, il va dire « je m'en vais, je quitte le pouvoir
», il va
malgré tout rester.
Ouais. D'accord.
Enfin, l'armée israélienne conquiert le Golan, la région au nord du lac de Tibériade, jusqu'ici contrôlée par la Syrie. Donc il y a vraiment une étendue d'un succès foudroyant pour les Israéliens.
Traumatisés. En fait, marrant, ils n'ont pas compris, les pays arabes, qu'ils n'étaient pas encore militairement au niveau d'Israël. C'est étonnant, cet aveuglement, parce que quand même, l'information n'était pas si secrète que ça. C'est un peu surprenant, ça.
C'est étonnant, et puis surtout, ça va avoir des conséquences vraiment très importantes pour la gestion des lieux saints à Jérusalem. Parce qu'en entrant dans Jérusalem-Est, le 7 juin 67, les Israéliens vont récupérer le contrôle des lieux saints, et plus particulièrement du mur occidental, qu'on appelle nous mur d'élémentation. Et pendant cette prise de Jérusalem-Est, un drapeau israélien va même être installé pendant quelques heures sur le dôme du rocher et sur la mosquée Al-Aqsa. Le rabbin d'ailleurs de l'armée...
Ça fait un peu de provoque.
Et puis ça va aller assez loin quand même, parce que le rabbin de l'armée israélienne, il va suggérer de détruire les lieux saints islamiques.
Bah ouais, tant qu'on y est.
Pour remplacer l'ancien temple.
La modération des religieux déjà.
Ouais. Alors heureusement quand même, Moshe Dayan, il va refuser et il ordonne le retrait des drapeaux israéliens. Mais en contrepartie, il fait raser le quartier maghrébin qui est dévolu depuis Saladin à l'accueil des pèlerins originaires du Maghreb.
Et il fait expulser les habitants du quartier, encore une fois. Allez hop, vous en allez et on rase votre quartier.
Et aujourd'hui, c'est le petit parvis qui est devant le mur des lamentations. Ouais. Alors la défaite arabe de 67 va entraîner la repalestinisation du conflit israélo-arabe. Mmh. Effectivement, déçus par les États arabes, les Palestiniens construisent un mouvement nationaliste qui va progressivement s'autonomiser.
C'est l'OLP ?
Et ben voilà, c'est ça. Ouais. Sa principale revendication, c'est le droit au retour. Le développement de ce mouvement nationaliste, il est soutenu par une très forte croissance démographique dans tous les camps de réfugiés qui sont issus de 1949, au Liban, en Cisjordanie par exemple. La génération qui naît dans ces camps, après la guerre de 48-49, elles sont adultes en 1960, et c'est elles qui fournissent l'essentiel des premiers fédaïnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fédaïnes ? C'est les jeunes combattants palestiniens qui sont désireux de gagner par les armes la possibilité de revenir habiter dans les localités.
Donc l'OLP naît à peu près dans la deuxième moitié des années 60, c'est ça ?
Ouais, en 64 exactement.
D'accord.
Un petit peu avant.
Ils démarrent dès le départ leur stratégie des attaques terroristes.
Alors pas tout de suite. C'est après la guerre des six jours justement.
Ah ouais, d'accord.
Et puis à partir du moment où Yasser Arafat va prendre l'OLP en main en 69. Mm-hmm. Il va d'ailleurs se débarrasser des éléments qui ne sont pas palestiniens. Et à partir de là, la Palestine n'est plus seulement le nom d'une région sous tutelle internationale ou l'enjeu de guerre entre États, mais c'est vraiment la cause que les Palestiniens et la génération des réfugiés se réapproprient en recourant à des moyens inédits, donc la mobilisation, la guérilla, le terrorisme, l'action violente. Et sur le terrain, voilà. Donc les premiers attentats, ça a lieu en 68, hein, pour les tout premiers.
Ouais.
Et donc la charte de l'OLP indique bien que ce territoire est pour eux. Alors pour autant, ils ne sont pas totalement antisémites. Enfin, ils ne sont pas antisémites du tout d'ailleurs, parce qu'ils disent que les populations juives qui étaient sur le territoire de la Palestine avant 1948 peuvent rester sur ce territoire. Mmh.
Ils ont un discours, en fait, et une idéologie qui est quand même beaucoup liée au marxisme en général.
Hein,
c'est le discours révolutionnaire, c'est absolument pas du discours religieux.
Non.
Et donc les dimensions d'antisémitisme, elles ne sont pas trop présentes dans leurs textes.
Hein. Ouais. On va faire un nouveau bond dans le temps maintenant pour arriver sur la guerre du Kippour de 73, qui va encore changer la donne. Parce que la guerre du Kippour, qu'on appelle autrement la guerre du Ramadan côté égyptien, c'est une attaque surprise des pays arabes contre Israël et lancée en 1973, qui a été déclenchée cette fois-ci par le président égyptien qui n'est plus Nasser, mais Anwar el-Sadat.
On va reparler de lui ensuite.
Et le but, c'est de récupérer les territoires qui étaient
Qu'ils ont
par
perdu
Israël
en 67.
Alors ça engendre vraiment un profond traumatisme en Israël, parce que l'effet de surprise a été décuplé, parce que le jour du Kippour, c'est vraiment un jour saint très important.
Cette fois, ils ne s'y attendaient pas.
Israéliens. Ils ne s'y attendaient pas, donc ils se font avoir et ils sont très gênés par cela. Malgré tout, le 15 octobre, le général Ariel Sharon, encore un homme politique dont on entendra parler plus tard, il parvient à renverser la donne en perçant les lignes égyptiennes. Alors, l'attaque surprise des pays arabes se transforme donc in extremis en victoire israélienne, mais cette victoire sur le fil n'empêche pas les Israéliens de se retourner contre leur gouvernement, et une commission d'enquête est mise en place pour tenter de comprendre comment l'État israélien a pu se laisser quand même surprendre par une telle attaque.
Ce qui est étonnant quand même.
Alors forcément, ça fait écho au 7 octobre 2023, à ce qui s'est passé récemment. Quoi. Mmh. Enfin, la guerre du Kippour a contribué à l'arrivée de la droite au pouvoir, alors qu'elle n'avait vraiment pas le droit de citer dans les décennies 50
vraiment,
et 60.
C'était un état travailliste. C'était plutôt la gauche, qui était au pouvoir en permanence.
Et elle a remporté les élections législatives de 77, 4 ans après la droite du Kippour, avec son leader Menahem Begin, dont
que j'avais évoqué tout à l'heure.
Et puis que tu vas pouvoir remanciner à nouveau, je pense. Je te
laisse
la parole.
Mais avant, on va souffler un petit peu. On va faire une deuxième pause musicale. C'est parti.
Il est écrit quelque part que je dois mourir. Il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne. Pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent, une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre,
il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
Du monde.
Vous écoutez Couleurs du Monde sur Caladma Radio. L'émission de ce mois est consacrée à Israël et la Palestine avec cette grande question, comment en est-on arrivé là ? Question à laquelle on essaie de répondre en faisant un déroulé historique. Nous sommes arrivés après la guerre de 1973, la guerre de Kippour, c'est comme ça. Je suis en compagnie de Jean-François et de Emma à la technique. Nous venons d'écouter... Attention, qu'est-ce que nous avons écouté ? Excusez-moi que je reprenne mes notes. Un rappeur français qui s'appelle HK et qui chante en fait un poème qui est le dernier poème qui a été écrit par un poète palestinien, Refat Al-Arer. S'il vous appartient de vivre, il faut savoir que ce poète a écrit ce poème en novembre 2023 et début décembre 2023, il a été tué, lui et toute sa famille, par un bombardement israélien à Gaza.
Alors pour cette dernière partie, pour enchaîner comme on peut, tu vas nous parler de ce qui se passe à partir de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, Patrick.
Ouais. Alors là, je vais prendre une grande inspiration parce que ça prend un peu de temps quand même. Allons-y, années 70, je reprends trois ans. Bah, juste au moment que tu as cité, en 77, donc tu dis la droite est passée au pouvoir, Menachem Begin.
C'est ça.
Et 77, je vais situer quand même un point important, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a, à l'époque, 80 colonies juives dans les territoires occupés. Occupées suite à la guerre de 67. Elles sont habitées, ces colonies, par 11 000 Israéliens. On reviendra sur ces chiffres plus tard. Tu as cité Ariel Sharon, à l'époque, il est ministre de l'Agriculture, mais aussi président de la commission interministérielle des implantations. Hein, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire, oui.
Ils veulent s'implanter dans les territoires occupés. Ils présentent un plan pour édifier en Cisjordanie, zone occupée, une série de localités juives et pour renforcer les 25 colonies dans la vallée du Jourdain. Ce plan de colonisation sera approuvé, appliqué en permanence jusqu'en 2009 par tous les gouvernements israéliens, sauf Rabin en 92. Pourtant, ce plan de colonisation, il est contesté en Israël. Par exemple, en 79, il y a le ministre de la Défense israélien, qui s'appelle Ezer Weissman, qui va démissionner et qui dit la chose suivante, j'ouvre les guillemets, « Begin et ses partisans ont sapé leur propre réussite par un programme de colonisation provoquant et des réquisitions de terres inutiles en défiant le monde tout en s'enfermant dans un ghetto mental ». Écoutez bien ces mots parce que ça va plus se produire souvent, la remise en cause de la politique de colonisation. À la même époque, Gaza est occupée et gérée par l'armée israélienne.
Directement, oui.
Et il y a un général ou colonel, je ne sais plus, qui s'appelle Itzhak Segev, qui est le gouverneur de Gaza. Alors lui, il fait un gros travail à l'époque pour essayer de développer l'économie de Gaza et les structures sociales. Mais ça, ça ne plaît pas à son état-major. Il va se faire convoquer, il va être obligé de démissionner. Sa hiérarchie passe son temps à bloquer son travail. Et après lui, plus personne pendant des décennies ne tentera véritablement de développer l'économie de Gaza. On passe aux années 80. Remarquez que j'ai juste laissé de côté un petit peu Sadat qui fait la paix avec Israël, je ne pouvais pas tout dire. En septembre 82, Reagan, président américain, publie son plan de paix pour Israël. Comme d'habitude, les États-Unis essaient de faire conclure des plans de paix entre Israël et les Palestiniens. Et je vais vous citer une phrase, un extrait très intéressant d'un texte rédigé par les Américains, par Reagan et ses équipes. « De nouvelles colonies ne sont en aucun cas nécessaires à la sécurité d'Israël et ne feraient que réduire la confiance des Arabes dans l'issue des pourparlers. » Le problème, c'est qu'en face, Begin, le premier ministre israélien, répond « Il n'est pas question de renoncer à ce qu'il appelle la terre d'Israël. » Septembre 82, l'armée israélienne entre au Liban, elle investit Beyrouth Ouest et laisse les phalangistes maronites libanais massacrer entre 1000 et 5000 personnes.
Massacre de Sabra à Chatilla.
Voilà, c'est ça. Hommes, femmes, enfants, tout compris. Ouais. Ce massacre va amener à quoi ? À la création du Hezbollah, qui est issu d'un regroupement des principales organisations chiites libanaises et qui sera un mouvement militaire qui va énormément faire souffrir Israël. Durant ces années, plusieurs rapports de l'administration israélienne, de l'armée israélienne, des services de renseignement israéliens vont pointer, quoi donc ? La montée en puissance des islamistes. Ils sont de plus en plus influents, de plus en plus populaires à Gaza, et ils reçoivent des fonds de l'étranger de plus en plus importants. On en reparlera. En 85, on est passé à 44 000 colons, de 11 000 à 44 000 en 7 ans.
Ça s'accélère, ça augmente.
106 implantations en Cisjordanie, une trentaine construites depuis 82, 28 000 Israéliens vivent dans les colonies de Gaza. Je m'excuse, je tourne la page, c'est pas très radiophonique, mais c'est pas grave. Pour les frères musulmans, donc les islamistes qui commencent à être influents à Gaza, cette politique d'annexion rampante et la menace répétée réelles d'attentats contre les mosquées de Jérusalem sont la preuve de la justesse de leur argumentation. C'est quoi leur argumentation ? C'est le conflit Israël n'est pas un conflit national, mais un conflit religieux. En 84, un rapport militaire israélien pointe l'absence totale d'investissement économique d'Israël à Gaza. En 87, trois ans après, un autre rapport militaire dit « Le salaire horaire moyen a baissé à Gaza en trois ans de 27%. 40% de la population à Gaza vit à 3 ou 4 par pièce. 59% des habitants de Gaza ont moins de 19 ans. L'eau potable est dans un état catastrophique. Les infrastructures ne sont pas entretenues depuis des années. » Bon, bah, résultat, c'est assez logique. Hein. En 87, l'intifada est déclenchée. Sauf qu'on s'aperçoit que la majorité des personnes, des Palestiniens qui participent à l'intifada sont jeunes, bien sûr, mais peu politisés, ni côté OLP, ni côté islamiste. Et, par contre, ils travaillent tous en Israël, où ils subissent des humiliations quotidiennes. Cette intifada est une rébellion de pauvres, de réfugiés, de jeunes sans avenir. Décembre 87, date importante. Ahmed Yassine décide de transformer son mouvement islamiste, la Mujahima, en quoi ? En un mouvement de djihad, le Hamas est né. On passe aux années 90. 90, c'est la deuxième intifada. Les services de renseignement israéliens expliquent que le Hamas est en train de se renforcer. Le Hamas reçoit des dizaines de millions de dollars du Koweït. Il est massivement soutenu par la population de Gaza. Ça n'a pas l'air de trop gêner le gouvernement israélien. Pendant ce temps, la colonisation continue. Mais, juin 92, Yitzhak Rabin, travailliste à gauche, remporte les élections. Il fait libérer 800 prisonniers palestiniens et c'est le retour de l'optimisme du côté palestinien. Il déclenche des négociations de paix à Oslo et là, Yasser Arafat, pour l'OLP, va faire des pas en avant absolument énormes. Il va renoncer à exiger le gel de la construction dans les colonies israéliennes de Cisjordanie et de Gaza. Il accepte que le statut de ces colonies israéliennes ne soit discuté qu'après et que pendant toute la période intérimaire de l'autonomie palestinienne, Israël n'est pas à évacuer une seule colonie. Pour information, ça va déclencher la colère des Palestiniens de l'intérieur, de Gaza, qui considèrent de plus en plus l'OLP comme les Palestiniens de l'extérieur, ceux qui sont exilés. C'est pas fini. L'OLP reconnaît le droit de l'État d'Israël à l'existence dans la paix et la sécurité. L'OLP renonce à l'usage du terrorisme et à tout autre acte de violence. Et l'OLP affirme que les articles de leur charte palestinienne qui rejettent le droit d'Israël à l'existence sont caducs. Donc, des concessions absolument énormes du côté palestinien. Contrepartie, le 10 septembre 1993, Rabin reconnaît officiellement l'OLP, donc comme représentant du peuple palestinien. Donc ça paraît des avancées extraordinaires, sauf que des deux côtés, les extrêmes vont réagir avec une extrême violence. Le 25 février 1994, à Hébron, un médecin qui s'appelle le docteur Bark Goldstein, qui est en fait un militant d'un mouvement d'extrême droite, se rend au caveau des patriarches, où de nombreux musulmans sont en prière, c'est le ramadan, c'est le 15e jour du ramadan, il va tuer de sang-froid 29 Palestiniens et en blesser une centaine. La Cisjordanie et Gaza vont s'embraser, en réponse le Hamas va lancer des attentats en Israël. En Israël, pendant ce temps, les manifestations anti-Rabin de la droite et d'extrême droite se multiplient au cri de « à mort Rabin ». Bah, ça ne va pas louper, le 4 novembre 1995, Rabin va être tué par un militant d'extrême droite. En 1996, le Hamas passe à l'action et multiplie les attentats en Israël. Résultat, le 29 mai 1996, Israël bascule à droite. Benjamin Netanyahou, on va longtemps entendre parler de lui, devient Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va évidemment immédiatement annuler le gel partiel de la construction dans les colonies. Il va relancer la colonisation. En une seule année, 1997, le nombre de colons va passer de 149 000 à 177 000. On passe aux années 2000. Alors début 2000, bon, comme d'habitude, une nouvelle tentative de négociation à Camp David sous l'égide des Américains. Le Premier ministre Ehud Barak a signé un accord qui est intéressant, sauf que son Parlement, la Knesset, ne le soutient pas. Et le plan n'est pas voté. Sur un plan médiatique, ça va être très fort. C'est-à-dire qu'à la fois les Américains et les Israéliens vont tout rejeter la faute sur Arafat, alors qu'en fait, ce plan, si la Knesset l'avait voté, ce plan aurait été appliqué. Mais je veux surtout m'arrêter début des années 2000 sur un élément un peu particulier, c'est la montée en puissance en Israël d'idées nouvelles qu'on va qualifier de néo-sionistes. Alors on va prendre l'exemple d'un ouvrage de Yoran Hazoni, qui est à l'époque directeur de l'Institut Salem. Cet ouvrage est publié en 2000 et s'appelle « L'État juif, la bataille pour l'âme d'Israël ». Dans cet ouvrage, il part en guerre contre deux textes adoptés en 92 par le Parlement israélien à cause de leur préambule. Alors je vais vous lire le préambule, je pense que vous n'allez pas comprendre. En Israël, les droits fondamentaux de l'homme sont fondés sur la reconnaissance de la valeur de l'être humain, sur la sainteté de la vie humaine et le principe que toutes les personnes sont des êtres libres. Ces droits seront respectés dans l'esprit de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et là, on se dit, bah, c'est quoi le problème ? Le problème, selon Azoni, c'est que ça signifie qu'Israël est à la fois un État juif et un État démocratique. Et ça, pour Azoni, c'est pas possible. Parce qu'un État démocratique, c'est un État qui donne le droit d'autodétermination à la population. Et ça, c'est impossible. Il faut que l'État soit réservé aux seuls juifs. Donc là, on a une pensée extrêmement radicale qui est en train de naître et on y reviendra. Ariel Sharon devient Premier ministre en février 2001. Début des années 2000, le Hamas multiplie les attentats. L'armée israélienne riposte en attaquant qui ? Le Hamas ? Pas du tout. Ils attaquent systématiquement les installations de l'autorité palestinienne, le Fatah, l'ULP. Et leur travail, c'est vraiment de réduire le plus possible la possibilité d'action, d'influence de l'OLP et du Fatah. Arafat va être contraint de se réfugier à Paris, où il mourra en 2004. En janvier 2003, les Israéliens votent. Mais il faut savoir qu'à cette époque, la loi a été modifiée pour revenir à l'ancienne formule de la proportionnelle intégrale. Ça fait quoi, ça ? Ça fait qu'en fait, les plus petits partis, les partis minuscules, religieux, extrémistes, vont devenir incontournables pour former des coalitions. Et c'est ainsi qu'en 2003, pour la première fois, Sharon forme une coalition parlementaire avec une formation d'extrême droite. En janvier 2006, on passe 3 ans, les élections à Gaza sont organisées et gagnées par le Hamas. Sharon est dans le coma. Il est remplacé par Ehud Olmert. En juillet 2006, pour répondre aux sanctions américaines et autres contre le Hamas qui a gagné les élections de Gaza, le Hezbollah bombarde Israël. C'est la deuxième guerre au Liban qui va durer 34 jours, qui va montrer une résistance étonnante du Hezbollah face à l'armée israélienne. Au fil des mois, les renseignements militaires israéliens vont perdre peu à peu leur dernière source de renseignements humains à Gaza et le Hamas au pouvoir va se réorganiser en une véritable force combattante. Mais Israël ne s'inquiète pas. Les analyses des services de renseignement lui confirment sa vision. Le retrait de Gaza a été justifié. Il produira une stabilité politique, sécuritaire et économique favorable à Israël. Les experts pensent qu'à long terme, les pressions internes vont amener le Hamas à restreindre ses activités terroristes. J'espère que vous avez bien entendu tout ça. On est en 2007. Vous avez bien compris qu'ils se sont trompés de tout au tout. Dans les années 2010, vous vous souvenez des affirmations des néo-sionistes : Israël est une nation du peuple juif. Eh bien, ça sera fait. En novembre 2014, ce sera voté. En avril 2014, les services de renseignement israéliens mettent la main sur un plan d'attaque du Hamas qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'ils feront le 7 octobre 2023, mais personne dans le gouvernement ne les écoute. En 2015, Netanyahou forme le gouvernement le plus extrémiste jamais formé en Israël, avec des partis ultra-extrémistes. En décembre 2017, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc il va dans le sens de la tendance israélienne extrémiste qui est au pouvoir actuellement. En 2018, la Knesset, le Parlement israélien, adopte une loi qui consacre définitivement Israël comme État juif. Donc la dimension démocratique est en train de disparaître. Les néo-sionistes ont gagné. Pendant ce temps, le Hamas continue à progresser. En 2017, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas changé d'un iota. Ils sont toujours aussi extrémistes, ils sont toujours aussi antisémites. Et on va passer pour autant du côté du gouvernement israélien. On reste bloqué sur l'idée que toute personne qui veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas, le transfert de fonds au Hamas. Ça, c'est Netanyahou qui a dit ça à son parti, le Likoud, en 2019.
D'accord.
On passe aux années 2020, messieurs, dames. On est dans un basculement total à l'extrême droite. Netanyahou, en novembre 2022, remporte les élections, met en place une coalition la plus extrémiste jamais vue. En janvier 2023, le gouvernement essaye de changer de régime en faisant en sorte que la Cour suprême perde son indépendance et passe sous le contrôle du gouvernement. C'est tout simplement un programme de sortie de démocratie. Là, il va y avoir une situation quasi insurrectionnelle en Israël et donc Netanyahou va suspendre sa réforme.
Beaucoup de manifestations.
Énorme,
pardon,
ouais. Énorme. On va faire un petit point. En 77, vous vous rappelez, il y avait 80 colonies, 11 000 Israéliens. En 2022, on en est à 475 000 Israéliens vivant dans les territoires occupés. Et j'en arrive à l'épilogue, messieurs, dames. 6 juillet 2023, une analyste de l'unité de renseignement 8200 alerte ses supérieurs. Le Hamas paraît être sur le point de lancer une grande offensive qu'il prépare depuis 2014. Il a procédé à une répétition générale de l'attaque des bases militaires et de kibbutz. Cette analyse sera confirmée par des observations de terrain. Mais les renseignements militaires et le Shabak pensent au contraire que le Hamas ne veut pas la guerre. Bah si, Le 7 octobre 2023, les terroristes du Hamas vont percer en 40 endroits la barrière autour de Gaza. Ils ne mettent que quelques minutes. La répression israélienne qui suivra ce moment terrible du 7 octobre 2023, elle fera entre 40 000 et 60 000 civils tués. Les conditions de cette répression mèneront des instances internationales comme les ONG Amnesty International, Médecins sans frontières, Human Rights Watch, à parler d'actes de génocide. Les rapporteurs de l'ONU parleront de risques graves de génocide. Définition juridique du terme de génocide en droit international, il a pour but de détruire, de faire disparaître une population ciblée. Ce qui caractérise le génocide, c'est l'intentionnalité. Autrement dit, il s'agit d'un crime planifié, mis en œuvre et exécuté. J'en ai terminé.
Merci Patrick.
On fait une petite conclusion, on a un peu de temps pour une petite conclusion, Emma ? C'est Emma qui ne dit rien, mais qui domine la situation aujourd'hui. Donc, vas-y Jean-François pour ta conclusion.
Eh bien, on voit qu'on n'est pas trop positif. Hein. On n'a pas trop d'espérance quant à la situation au Proche-Orient et en Israël. Ouais. Et la démographie, en plus, israélienne, donne du grain à moudre à l'extrême droite qui grossit grâce à de nombreux orthodoxes, ultra-orthodoxes qui ont une démographie assez forte et qui votent bien à droite.
D'accord.
J'y vois pas beau.
Alors, moi, ma petite conclusion, ce recul historique est très intéressant parce qu'on voit en fait sur un siècle rien d'autre qu'une opération de colonisation. Hein. En fait, Israël est un pays qui a mené une politique de colonisation. On est parti de 60 000 juifs et par des guerres, etc., et des expulsions, on arrive à une situation de domination totale. Voilà.
Tout cela dans un climat de radicalisation religieuse aussi, comme vous l'avez compris.
Hein. Radicalisation terrible et aveuglement terrible vis-à-vis de la montée en puissance des islamistes. C'est absolument incroyable. On en a terminé. L'avenir nous dira ce qui va se passer. Auditeur de Kalanma Radio, bonne fin de journée.
Au revoir.
Kalad. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture. De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.